have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'Amérique et vous en direct de Washington. Avec vous, Nicolas Pineau, en lieu et place de Timothée Donangmaï.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au cinquantenaire de la marche sur Washington. Le 28 août 1963, une date majeure dans l'histoire américaine, puisqu'à l'occasion d'une marche pour la liberté et les emplois des Africains-Américains, Martin Luther King a prononcé son célèbre discours « I have a dream ». Dans cette émission, nous allons tenter de mieux comprendre cet événement historique. Pour cela, vous entendrez les témoignages de ceux qui étaient présents à l'époque au Lincoln Memorial, mais aussi les analyses pour décrypter les enjeux de cette marche. Et nous avons le plaisir d'avoir en ligne Nicole Baccaran du Hoover Institution de l'université de Stanford en Californie. Bonjour.
Bonjour.
Et je rappelle que vous avez écrit un livre passionnant, Les Noirs Américains, des champs de coton à la Maison-Blanche. En ligne également Maboula Soumaoro, maître de conférence en civilisation du monde anglophone à l'université de Tours, c'est en France. Bonjour. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Première question, peut-être pour vous, Nicole Baccaran. Que vous évoque ce cinquantenaire?
Pour moi, je trouve que c'est très émouvant. Ça paraît à la fois très loin par tout le chemin qui a été parcouru, à quel point l'Amérique et le monde ont changé, et extrêmement près, justement, parce que, bon, 50 ans, c'est à peine deux générations. Et même s'il y a eu beaucoup de militants et beaucoup d'acteurs dans ce mouvement des droits civiques, Martin Luther King, c'est vraiment, pour moi, un très grand homme, un homme qui a changé le monde.
Maboula Soumaoro, on parle beaucoup de ce discours « I have a dream » de Martin Luther King, au point d'oublier parfois le sens de cette marche organisée en 1963.
Je pense que c'est une combinaison des deux. Je pense que, évidemment, le discours mythique de Martin Luther King est ce qui est resté dans les annales. Et pour le grand public, ça a constitué le moment fort de cette marche. Mais en fait, cette marche était effectivement une marche. Donc, elle a incorporé plusieurs organisations. Évidemment, des milliers de personnes. Je crois 250 000 personnes qui ont fait le déplacement. Et c'était surtout le fruit de luttes qui ont été menées par la communauté afro-américaine depuis son arrivée sur ce qui allait devenir le territoire américain, enfin états-unien.
Allez, je vous propose à présent un petit retour en arrière pour revenir aux origines de cette marche de 1963, à savoir le régime de la ségrégation qui avait lieu aux États-Unis contre les Africains-Américains. Avant de vous entendre, écoutons le témoignage du congressman John Lewis, personnage important que ce représentant de l'État de Géorgie. Il est le dernier orateur de 1963 encore vivant. J'ai eu le plaisir de le rencontrer dans son bureau au Congrès. Voici son témoignage sur le racisme ordinaire dans les années 1940 aux États-Unis.
J'ai grandi dans l'Alabama, environ 80 km de Montgomery. En grandissant là-bas, j'ai vécu la ségrégation et la discrimination raciale. J'ai goûté aux fruits amers du racisme et je n'ai pas aimé. J'ai vu ces signes qui disaient « homme blanc, homme de couleur ». Vous alliez en ville pour faire les courses, vous ne pouviez pas vous asseoir. Impossible d'aller à la bibliothèque. Je rentrais demander à ma mère, à mon père. Il me disait, c'est comme ça, ne t'attire pas des ennuis.
Voilà pour ce témoignage de John Lewis. Nicole Baccaran, pour nos auditeurs, on va rappeler ce qu'est la ségrégation.
La ségrégation était instituée par le système social, mais aussi le système légal. C'est-à-dire que les lois locales et la police locale, les tribunaux locaux appliquaient cette ségrégation de la manière la plus dure. Il fallait énormément de violence, et je pense assassinat, lynchage, emprisonnement abusif, etc., etc. Ça n'a jamais été accepté comme une chose normale par les Noirs américains. Petit à petit, ce mouvement des droits civiques est né au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où étaient revenus des Noirs qui avaient porté les armes, qui avaient vaincu le régime nazi, qui avaient lutté pour la démocratie et qui, rentrant dans le Sud, étaient supposés abandonner tous ses droits, vivre comme des citoyens de seconde zone ou même des sous-hommes. Donc c'est dans ce contexte-là que le mouvement des droits civiques s'est développé.
Et on va peut-être préciser pour nos auditeurs, il y a ces fameuses lois Jim Crow.
Elles consistent à instituer une séparation des races, hein, puisque c'est le langage de l'époque, race noire, race blanche, aussi extrême, aussi stricte, aussi radicale que possible, plus stricte même qu'à l'époque de l'esclavage, où finalement, comme le système de l'esclavage maintenait les Noirs dans une telle soumission, il y avait moins d'angoisse de mélange des races. Parce qu'à l'arrière de cette préoccupation, il y a toujours l'idée du mélange des races, c'est-à-dire quand même les relations sexuelles, la naissance d'enfants d'origine métisse, un mélange des races qui amènerait, dans le fantasme des ségrégationnistes, la fin de l'Amérique, la fin de la civilisation. Donc les lois Jim Crow, elles imposent la ségrégation des quartiers, quartier noir, quartier blanc, sachant que les quartiers noirs sont toujours pauvres, c'est toujours là que les services d'hygiène ne passent pas et que les rues ne sont pas goudronnées, séparation des écoles, séparation des universités, séparation des hôpitaux, des prisons, des parcs, des toilettes publiques, des restaurants, des magasins, et j'en oublie, et jusqu'au cimetière.
Oui, c'est vrai, Mabula Soumaoro, les Africains-Américains bouillonnent d'impatience devant tant d'injustices, et ce, quand même, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Après 45, la situation pour alors ceux qu'on appelle ces Negroes en anglais, en français on a traduit souvent par noir, enfin noir ou nègre. À l'époque, on utilisait aussi le terme colored, qui voulait dire donc les gens de couleur. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une sorte de désillusion au sein de la communauté afro-américaine puisque ils s'étaient massivement investis dans l'effort de guerre de la Deuxième Guerre mondiale et ils n'avaient pas été rétribués de manière assez juste. Mais cette désillusion était la même qui s'était produite après la Première Guerre mondiale et aussi après la guerre de sécession et puis la guerre d'indépendance des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Donc il y a une longue histoire de désillusion, de promesses non tenues par le gouvernement fédéral à l'égard de cette communauté afro-américaine.
Alors on parle souvent, Mabula Soumaoro, on parle souvent d'une grande différence entre les États du Nord américain et les États du Sud, notamment ceux qui appliquent encore ces fameuses lois Jim Crow. Mais est-ce que cette différence, elle est si fondamentale que ça ?
Elle est fondamentale, on va dire, de manière politique, puisque souvent, c'est vrai qu'on a une image assez simpliste d'une division claire et nette entre le Nord et le Sud, en se disant que le Nord était plus libéral et avait plus de droits à l'égard des Noirs, et le Sud qui était complètement arriéré et très très raciste. Mais en fait, c'est pas aussi clair. Tous les États, enfin la plupart des États américains ont pratiqué l'esclavage. Et sauf que la différence entre le Nord et le Sud, c'est que dans le Nord, dès 1820, l'institution esclavagiste n'existait plus, elle avait été abolie. Donc c'est juste que le Nord a une avance dans l'abolition sur le Sud. Mais au niveau de des ségrégations ou au niveau du racisme institutionnel, je veux dire, les deux parties des États-Unis étaient comparables en fait. Il y avait de la ségrégation dans le logement, ségrégation dans le travail, qui existait aussi dans les États du Nord jusqu'aux années 60.
Merci à toutes les deux. On va marquer une première pause dans cette émission spéciale sur la voie de l'Amérique. Et voici un morceau de circonstance. On écoute « We Shall Overcome » interprété par les Freedom Singers.
I do believe.
We Shall Overcome, interprété par les Freedom Singers. Nous sommes toujours avec Nicole Baccaran de la Hudson Institution et Mabula Soumaoro de l'Université de Tours dans cette émission spéciale. Dans cette seconde partie de notre émission, abordons cette marche du 28 août 1963, un grand rassemblement pour la liberté et les emplois des Noirs américains. Même si Martin Luther King reste dans l'histoire comme le plus célèbre des intervenants ce jour-là, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas vraiment à l'origine du projet. On va en profiter ce soir pour rendre hommage à A. Philip Randolph. Nicole Baccaran, qui est-il ?
C'est un syndicaliste, en fait. C'est un syndicaliste, un leader syndicaliste. Et cette marche, il en rêve probablement depuis qu'il a 15 ou 16 ans. Aller à Washington et réclamer l'égalité, mais dans une vision qui est plus, je dirais, économique. Il s'agit des emplois, il s'agit de l'accès à l'instruction, de l'accès à l'échelle sociale, en quelque sorte. Et c'est vraiment lui qui mûrit ce rêve d'une marche sous Washington depuis très très longtemps. Et Martin Luther King n'arrive dans ce projet que relativement tardivement. Et c'est un projet qui inquiète d'ailleurs énormément les autorités américaines, que ce soit les autorités locales de Washington, mais la Maison Blanche de John Kennedy, de Robert Kennedy, qui est alors le ministre de la Justice, et qui craignent énormément des émeutes. Enfin, jusqu'à la dernière minute, il y a cette crainte des émeutes. Il y a des réunions avec Kennedy qui essayent de décourager autant King que Randolph de continuer ce projet, en disant que ça va en fait mettre des bâtons dans les roues dans le projet de loi sur l'égalité des droits civiques. Et Randolph refuse absolument de céder, mais il s'attelle à l'organisation dans tous les détails, que ce soit le transport, les gens sont venus de très très loin, hein, les transports, la présence de toilettes publiques, de lieux pour se rafraîchir, pour distribuer des banderoles, mais aussi des bouteilles d'eau, etc. C'est vraiment lui qui a assuré la logistique de cette marche.
Oui, vous avez raison, Nicole Baccaran. On va retrouver John Lewis, le congressman de Géorgie. Il était présent lors de cette réunion à la Maison-Blanche.
C'était l'idée d'A. Philip Randolph. C'était son rêve. Le président Kennedy nous avait invités à venir le rencontrer à la Maison-Blanche au début de l'été 1963. Au cours de cette rencontre, M. Randolph s'est levé et a dit de sa voix de baryton : « Monsieur le Président, les masses noires sont impatientes. Nous allons marcher sur Washington. » Le président Kennedy n'aimait pas l'idée des centaines de milliers de personnes à Washington. Et il a déclaré à Randolph : « Si vous amenez toutes ces personnes à Washington, n'y aura-t-il pas de la violence, du chaos et du désordre ? Nous n'aurons jamais de loi sur les droits civiques votée au Congrès. » M. Randolph a répondu : « Monsieur le Président, ce sera une manifestation ordonnée, pacifique et non violente. »
Et Philip Randolph, si bien décrit par John Lewis, qui rappelle que toutes les communautés ont été associées à cette marche, un événement inclusif pour les Noirs, les Blancs, les Hispaniques, etc. 250 000 personnes venues de tous les États-Unis se réunissent ce jour-là dans la capitale américaine, le 28 août 1963, un jour qui marque à jamais l'histoire. L'incontournable John Lewis se souvient.
And I remember the morning of August 28, 1963. We came up on Capitol Hill.
Je me rappelle le matin du 28 août 1963. Nous sommes arrivés sur les hauteurs de Capitol Hill et on se dirigeait sur Constitution Avenue et on a regardé vers Union Station. Il y avait une marée humaine. Et les gens marchaient déjà et ils nous ont littéralement portés vers le Washington Monument, puis le Lincoln Memorial. Quand on est arrivé sur les marches du Lincoln Memorial, il y avait des centaines de milliers de personnes, beaucoup de jeunes hommes dans les arbres qui voulaient mieux voir la scène. Des centaines de milliers de personnes, les pieds dans l'eau. C'était une journée chaude, il fallait se rafraîchir.
Effectivement, les étés sont chauds et humides à Washington pour ceux qui ont déjà eu le plaisir de venir ici, Nicole Baccaran.
Oui, Washington, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est quand même un climat fondamentalement tropical. Et les étés sont suffocants, il fait extrêmement chaud, 100% d'humidité. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a joué dans le discours de King. Il a ressenti, il s'est exprimé à la fin de la journée, que les gens étaient fatigués, ils avaient trop chaud, ils n'en pouvaient plus, il fallait leur offrir quelque chose de grand, en quelque sorte. Mais c'est vrai que John Lewis, en particulier, qui est aujourd'hui un des vétérans du Congrès, un homme âgé qui a combattu tous les combats, était un très jeune homme en 1963, je crois qu'il avait 23 ans, et il était parmi les plus radicaux du mouvement. Il avait préparé un discours non seulement flamboyant, mais bon, qui faisait un peu peur, disons, pour à l'Américain moyen. Il évoquait une marche des droits civiques qui enflammerait tout le Sud, comme la marche de Sherman, et la marche de Sherman fait référence à l'avancée d'un des généraux qui a gagné la guerre de sécession pour le Nord, mais qui a tout brûlé sur son passage. Ça a été vraiment un carnage. Et pour le Sud, c'est un souvenir terrible. Donc tout ça a été rayé de son discours. Je crois qu'à ce moment-là, il en a beaucoup souffert, mais que probablement, a posteriori, il réalise que c'était une bonne chose de parler à tout le monde.
Voilà, et à présent, un autre témoignage sur ce jour historique, celui du pasteur Jesse Jackson, tout jeune, à l'époque des faits.
Les gens qui pensaient s'en aller sont sortis de leur voiture, sont descendus des arbres. Il y en a qui ont même laissé leur sandwich dans leur coffre de voiture. Ils se sont dépêchés de revenir pour l'écouter. Ça a été 12-15 minutes excitantes. C'était tellement puissant. On pensait que rien ne pouvait nous arrêter. Tous ces gens trouvaient en lui une voix commune et cette capacité inspirée avec ses mots, sa voix. C'était bouleversant.
Nicole Baccarat, discours historique selon vous, même si Martin Luther King avait déjà évoqué ce rêve lors de précédentes interventions?
Déjà, ce discours, il faut dire que quand on vit aux États-Unis, et je pense que ça, vous partagez cela, on le connaît par cœur quand même. On l'apprend à l'école, mes enfants l'ont appris à l'école, on l'entend pratiquement chaque année au moment du Martin Luther King Day, et ça reste un modèle. Ça reste, comment dire, le maître étalon du grand discours. Pratiquement, ça fait rarissime d'être à la hauteur de ce discours-là. C'est le modèle. Il n'est en effet pas très long. Et King, apparemment, avait travaillé sur ce discours très tard dans la nuit qui précédait. Et c'était compliqué, le texte était compliqué, alambiqué, avec des phrases difficiles, assez tortueuses, un petit peu techniques, je dirais même, sur ce qu'étaient les demandes des marcheurs qui venaient ainsi réclamer leur égalité à Washington. Et il a commencé effectivement à lire ce discours qui avait quelque chose d'un petit peu convenu. Et très certainement, tel quand on revoit le discours, on peut imaginer qu'il a ressenti à quel point justement les gens étaient fatigués et attendaient quelque chose de plus. Et il a, on peut dire, décollé. Il a décollé de son texte, déjà, qu'il a complètement lâché. Il a dit plus tard qu'il avait eu un blanc, en fait, qu'il avait un peu perdu le fil et qu'il s'était appuyé spontanément sur des parties de sermons qu'il connaissait bien, puisque il avait prononcé des sermons. Par ailleurs, ses discours ressemblaient à des sermons. Et cette phrase, « I have a dream », on l'avait déjà entendu dans des discours, des sermons de King dans les mois qui précèdent. Et vraiment, il a réussi, là, dans ce moment-là, quelque chose de très prophétique, en fait. Quelque chose qui a ranimé, au milieu de cette foule exténuée, un enthousiasme absolument extraordinaire.
Et allez, on va écouter pour le plaisir un court extrait de ce discours, « I have a dream » de Martin Luther King.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Je rêve que mes quatre enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas par la couleur de leur peau, mais par la force de leur caractère. Nous pourrons alors transformer la cacophonie qui existe dans cette nation en une splendide symphonie de fraternité. C'est ce qui doit se passer si l'Amérique veut vraiment être un grand pays. Que la liberté résonne, oui, que la liberté résonne. Quand on en arrivera là, quand on permettra à la liberté de résonner, Alors nous ferons avancer le jour où tous les enfants de Dieu, les blancs, les noirs, les juifs et les chrétiens, protestants et catholiques, se tiendront la main et chanteront ensemble cette vieille chanson du Sud. Libre, enfin libre, Dieu merci, nous sommes enfin libres.
Maboula Soumaoro, est-ce que finalement la force de ce discours ne réside pas en une seule phrase « Je fais un rêve profondément enraciné dans le rêve américain ». Est-ce que ce message d'unité inclusif n'est pas à l'origine du succès de ce discours ?
Alors ça c'est une question complexe, d'ailleurs elle est très intéressante. Je pense que, évidemment, ce discours unificateur garantissait l'acceptation des demandes émises par Martin Luther King et par les gens réunis lors de cette marche, et aussi on rassurait la communauté blanche. Mais je pense que même s'il y a eu des mouvements vraiment plus radicaux ou séparatistes afro-américains à travers l'histoire des États-Unis, la majorité des mouvements, on va dire, de résistance afro-américains ont toujours été des mouvements intégrationnistes, dans le sens de faire partie, pour la communauté afro-américaine, faire partie de manière égalitaire, égalitaire et juste, de la nation américaine. Ça, c'est la plupart. Tous les mouvements qui ont été plus séparatistes ont toujours été minoritaires, en fait. Une citoyenneté égale au sein de la nation américaine. Donc, en fait, je pense que stratégiquement, quand Martin Luther King évoque le rêve américain, les grandes valeurs, les grands principes des pères fondateurs de cette nation américaine, il essaye plus de donner peut-être un aspect ou une saveur morale de la question. La question est éminemment politique et économique, évidemment, mais aussi morale, c'est-à-dire que ces Afro-Américains dont on parle et qui sont encore maltraités en 1963 font partie intégrante de cette nation américaine qui a été créée en 1776 avec la déclaration d'indépendance. Et en plus, la date de 1963 n'a pas été choisie au hasard, puisque c'était le centenaire de la proclamation d'émancipation, donc émise par le président Lincoln en 1963, qui avait libéré les esclaves, non pas de tous les États-Unis, mais en tout cas les esclaves des États confédérés qui étaient en guerre contre les États-Unis d'Amérique. Donc vraiment, c'était pour, en utilisant ces termes en 1963, c'est vraiment rappeler aux États-Unis en tant que nation les promesses qui ont été faites en 1776, en 1787 avec la Constitution américaine, et plus tard en 1863 et en 1865 avec l'abolition donc totale de l'esclavage votée par le Congrès américain en 1865, quand Lincoln était déjà mort. Donc c'est vraiment une, je pense, en utilisant ces termes, Martin Luther King voulait mettre la nation face à ses responsabilités.
Voilà, et ce discours unique qui résonne encore 50 ans après dans le cœur de ceux qui étaient présents ce jour-là. On retrouve John Lewis.
I was deeply moved, deeply inspired, deeply lifted up.
Ça m'a profondément touché, profondément inspiré, profondément transporté. Parce que ce jour-là, le 28 août 1963, Martin Luther King a prêché, il a délivré un serment à la nation. Il savait qu'il était connecté, pas seulement avec les gens présents, mais partout en Amérique et dans le monde. Il a transformé ces marches de marbre du Lincoln Memorial en podium moderne. Et je me souviens qu'il a dit « Je fais un rêve toujours, un rêve profondément enraciné dans le rêve américain ». Ce discours était inclusif, il représentait tous les Américains.
That speech was all inclusive. It represented all of us, all Americans.
Et c'est sur ce témoignage du congressman John Lewis que s'achève la deuxième partie de notre émission spéciale. Une pause en musique, on écoute les Staple Singers qui chantent « I'll take you there ».
Help me out.
Altitude Air des Staple Singers. Alors évidemment, 50 ans après cette marche, est-ce que les Africains-Américains y sont arrivés? Car tout n'a pas disparu du jour au lendemain. Par exemple, le 15 septembre 1963, quatre fillettes noires meurent dans l'explosion d'une église à Birmingham, dans l'Alabama. Nicole Baccarat, est-ce qu'on n'est finalement pas passé du rêve au cauchemar en quelques semaines?
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que le rêve de Martin Luther King, c'est une vision prophétique qui ne décrit pas du tout la réalité de l'été 1963, mais le but à atteindre, en quelque sorte, la fameuse montagne au sommet de laquelle il faut aller, dont il reparlera peu de temps après sa mort. Et c'est vrai que cette bombe, un dimanche matin, au moment de l'école du dimanche, du catéchisme, en quelque sorte, dans une église de Birmingham, la ville d'origine de Martin Luther King, ou la ville en tout cas où il a vécu longtemps, où quatre petites filles ont péri, c'est le réel d'alors. Ça a été orchestré par le Ku Klux Klan, qui n'était absolument pas disposé à lâcher le pouvoir. Il y aura beaucoup de morts, beaucoup de violence pendant ce mouvement des droits civiques.
Évidemment, la ségrégation a été abolie en 1964 avec le Civil Rights Act. Des lois sont passées contre les discriminations en matière de logement. Mais 50 ans après, les disparités économiques restent flagrantes entre noirs et blancs aux États-Unis. Quelques chiffres. Par exemple, le taux de chômage aujourd'hui est de 12,6% pour les Africains américains contre 6,6% pour les blancs américains. Autre chiffre, plus de 27% des foyers africains-américains se trouvent sous le seuil de pauvreté, des chiffres accablants. Et certains se demandent, est-ce que le mouvement des droits civiques aurait pu faire mieux? Écoutez ce qu'en pense Julian Bond, c'est l'un des leaders historiques du mouvement des droits civiques et surtout le président jusqu'en 2010 de la NAACP, la grande association américaine qui milite pour l'égalité des non-blancs aux États-Unis. On l'écoute.
La pauvreté persistante n'a pas été vaincue par le mouvement, mais ce n'est pas la faute du mouvement des droits civiques. Nous avons fait de grands progrès pour changer les choses en Amérique. Ce pays n'est plus le même pays grâce au mouvement des années 1960. C'est beaucoup demandé que de changer les habitudes de l'économie d'un pays si large, c'est trop demandé. Si on avait eu plus de monde, plus de temps peut-être, mais on ne sait pas. La discrimination dans le logement, voilà un point de l'héritage de Martin Luther King que nous n'avons pas résolu. Il y a aussi les terribles chiffres de l'incarcération des Africains américains.
Julian Bond, ancien président de la NAACP aux États-Unis. Autre avis, celui d'Eleanor Holmes Norton. Elle est déléguée du district de Columbia à la Chambre des représentants, ici à Washington. Il y a 50 ans, elle travaillait en coulisses à l'organisation de cette marche.
Today, most African Americans would say that.
Aujourd'hui, la plupart des Africains-Américains diraient que le racisme en vigueur est ressenti sur le plan économique. On voit ces disparités dans virtuellement tous les aspects de la vie américaine. La santé des Africains-Américains, leur éducation et où ils vivent, ça va nécessiter un effort continu pour obtenir l'égalité, effacer ces disparités qui ont commencé sous l'esclavage et qui n'ont vraiment commencé à diminuer qu'il y a 50 ans seulement.
Eleanor Holmes Norton, bien connue des Washingtoniens. Alors je vous le disais tout à l'heure, toute la semaine, l'Amérique a célébré cette marche de 1963. Il y a eu des rassemblements, des cérémonies et même une marche. On écoute quelques témoignages d'Américains que j'ai recueillis.
J'étais à la marche il y a 50 ans, j'avais 13 ans. Je devais bien à Martin Luther King d'être là pour la seconde marche et aussi pour mes petits-enfants qu'ils voient l'histoire.
Seems like the same things that we marched for in 63
Les mêmes choses contre lesquelles nous manifestions en 1963 prévalent encore aujourd'hui. Le chômage, les inégalités dans le système judiciaire, l'échec du système scolaire.
L'image des petits enfants noirs et blancs se donnant la main a toujours été mon rêve. Le fait que 50 ans après, ces enfants noirs et blancs sont adultes et se tiennent effectivement la main, c'est vraiment important.
Voilà pour ces témoignages. On va écouter à présent Barack Obama, qui s'est exprimé au cours d'une cérémonie au Lincoln Memorial, en présence de la famille de Martin Luther King, mais aussi des anciens présidents Jimmy Carter et Bill Clinton.
Parce qu'ils ont marché, l'Amérique est devenue plus libre et plus juste, pas que pour les Africains américains, mais pour les Hispaniques et les femmes, les Asiatiques et les Amérindiens, les Catholiques, les Juifs et les Musulmans. L'Amérique a changé pour vous et moi.
C'était le président américain Barack Obama qui affirme que l'Amérique a bien changé. Alors mesdames, c'est intéressant puisque le débat fait rage ici, puisqu'une partie du Voting Rights Act de 1965 a récemment été invalidée par la Cour suprême. Rappelons que cette loi permettait au ministère américain de la Justice de contrôler toute modification électorale dans les États du Sud du pays qui avait eu une tradition ségrégationniste. Nicole Baccarane, est-ce que finalement ce n'est pas un retour en arrière ?
C'est assez symbolique du débat actuel sur les questions raciales aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens les plus conservateurs veulent croire que tout est réglé, qu'il n'y a plus de racisme et qu'il n'y a plus de préjugés ni d'obstacles pour les Noirs américains à accéder au bureau de vote ou à accéder aux emplois ou à l'éducation d'une manière égale. Et si on parle spécifiquement effectivement du droit de vote, certes, il est accepté et reconnu partout que les Noirs ont un droit égal à voter, mais après, il y a la pratique de cela qui est effectivement contrôlée par les autorités locales, notamment l'établissement des listes électorales et le fait de rayer de la liste un tas de gens au moment où les élections s'organisent. Et ça peut être très large. C'est le gouverneur en général qui est chargé d'approuver cela. Et très souvent, les gens qui ont été, même si peu que ce soit, condamnés pour des toutes petites choses, en sont exclus. Et on a pu remarquer aussi que ça pouvait être plus brutal vis-à-vis des électeurs noirs. Également, les exigences des bureaux de vote sur la preuve de l'identité. Bon, je sais que pour des auditeurs français, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais il n'y a pas de carte d'identité aux États-Unis et tout le monde n'a pas des papiers d'identité avec une photo. Et donc, quand les conservateurs demandent avec toute l'air de la bonne foi qu'il y ait au moins l'exigence d'un contrôle d'identité avec photo quand on va voter, ça peut sembler le bon sens même, pour qu'il n'y ait pas de triche, etc. Mais en réalité, les gens qui n'ont pas de carte d'identité avec photo, enfin de papier d'identité avec photo, ce qui est en général aux États-Unis le permis de conduire, bon, ce sont les gens les plus pauvres, qui n'ont pas de voiture précisément. Et parmi les gens les plus pauvres, il y a évidemment une disproportion de Noirs, surtout dans les États du Sud. Et c'est une manière de les éloigner des bureaux de vote. Il y a tout un tas de manœuvres, de déplacements du bureau de vote au dernier moment, etc., qui en fait ont un certain facteur raciste. Et la décision de la Cour suprême intervient dans une vision un peu idyllique des États-Unis où tous ces problèmes-là seraient réglés.
Maboula Soumaoro, c'est aussi votre avis ?
Là, oui, c'est effectivement un retour en arrière, puisque le Voting Rights Act de 1965, déjà, c'était une réaffirmation et une intervention, on va dire, un peu plus musclée de l'État fédéral dans les affaires du Sud. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les États-Unis, politiquement, fonctionnent à deux niveaux. Il y a le niveau fédéral et le niveau des États. Et depuis la création des institutions politiques américaines, depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a toujours eu une tension entre l'État fédéral, entre Washington et les États eux-mêmes. Et les politiciens américains, enfin les acteurs du jeu politique américain, ont toujours lutté pour savoir qui des deux, qui des États ou qui de l'État fédéral devait avoir le plus de poids. Et quand on voit des crises majeures telles que la guerre de sécession, qui était vraiment une contestation, hein, au-delà de la question de l'esclavage, c'était est-ce que l'État fédéral a le droit d'imposer de nouvelles lois ou des nouvelles façons de penser aux États et en l'occurrence aux États du Sud. Quand on passe au XXe siècle et la lutte pour les droits civiques, encore une fois, c'est posé la question, est-ce que l'État fédéral a le droit d'envoyer la garde nationale, a le droit d'imposer la déségrégation aux États du Sud? Donc vraiment, on a vu que ce soit à l'époque de la guerre de sécession ou à l'époque des droits civiques, l'État fédéral a pris ses responsabilités et a joué un rôle important, a mis la pression sur les États. Et là, quand on voit que la Cour suprême, tout récemment, décide que l'État fédéral n'a pas à intervenir et n'a pas à superviser en fait ce qui se passe dans les États, dans les États qui essaient encore de mettre en œuvre la discrimination, même au niveau des droits électoraux et de la politique. Ben oui, évidemment, c'est un énorme recul. C'est un énorme recul puisque si l'État fédéral n'intervient pas, c'est-à-dire que les États, et notamment les États les plus conservateurs, les États les plus racistes, les États les plus ségrégés, ont le droit de faire exactement ce qu'ils veulent. Et donc ça, évidemment, ça pose un problème.
Et puis évidemment, il y a en toile de fond la récente affaire Trayvon Martin, Nicole Baccarat.
L'affaire Trayvon Martin, elle est très emblématique. Elle dit beaucoup de choses. Ce garçon a été tué parce que c'était un jeune noir, grand, costaud, qui n'était pas dans son quartier et qui portait un capuchon sur la tête. C'est l'unique raison pour laquelle il a été tué. L'homme qui l'a tué a été finalement acquitté en vertu des lois sur l'autodéfense de Floride. Donc ça veut bien dire que le risque pour un homme noir, en particulier un jeune homme noir, d'être tué sur des soupçons qui s'avèrent totalement infondés, il est très réel. Et on a, au fil de l'histoire judiciaire américaine, malheureusement pas mal de cas de cette nature. Bon, on sait également que sur les presque 3 millions de détenus aux États-Unis, la moitié sont noirs. On sait que les noirs sont beaucoup moins bien traités dans les tribunaux, qu'ils sont beaucoup plus nombreux parmi les condamnés à mort, etc., etc. Et en même temps, le fait que l'homme qui tire les leçons pour le pays de cette affaire Trayvon Martin, en qui vraiment fait la liste au fond de tous les moments où les noirs sont traités, sont victimes de préjugés, d'a priori, etc. Le fait que l'homme qui décrive tout cela soit le premier président noir en direct de la Maison Blanche, ça nous montre tout le chemin parcouru et tout le chemin qui reste à parcourir.
Merci à tous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition spéciale de l'Amérique et vous. On va remercier chaleureusement nos deux invités, Maboula Soumaoro de l'Université de Tours. Merci beaucoup.
Et je vous en prie.
Merci également à Nicole Baccarat de la Hudson Institution de l'Université de Californie. Merci à vous.
Merci à vous.
Et merci à Anne Albertson et Lionel Gaïma pour la mise en onde. Nicolas Pino était au micro. Pour le plaisir, on termine en musique. Bob Dylan, Blowin' in the Wind, une chanson sortie en 1963, une année pleine de rêves. À très bientôt et merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.